Très Ville BM. L'International. Loïc Tassé.
I'm ashamed that I chose to take part in concealing Mr. Trump's illicit acts rather than listening to my own conscience. He is a racist, he is a con man, and he is a cheat.
Eh, boy, ça c'est l'avocat. Ben, je pense qu'il ne l'est plus maintenant. On va dire l'ex-avocat de M. Trump qui comparaissait ce matin devant le Congrès américain. Alors là, il dit que Trump est un raciste, un tricheur, qu'il, lui, Michael Cohen, a honte d'avoir été complice de ses cacheteries. Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour, Bernard.
Alors, est-ce que jusqu'à maintenant, il y a eu une grande révélation là, qui pourrait mettre Donald Trump dans l'eau chaude?
De grandes révélations, nous, non.
Non.
Soit dit en passant, Michael Cohen n'est plus avocat depuis hier. Il a été expulsé du barreau new-yorkais.
Bon,
donc,
c'est
fini pour lui.
Bon.
Mais effectivement, en fait, ce qu'il a dit, c'est des choses qu'on savait, mais il a apporté quand même des preuves. Des preuves dans sa déposition. C'est-à-dire, par exemple, qu'il lui dit que ce sont des preuves irréfutables. Par exemple, il a montré un chèque de Trump qui servait à rembourser l'argent qu'il aurait, lui, Cohen, donné à Stormy Daniels, tu sais, cette actrice pornographique qui dit avoir eu une relation sexuelle avec Donald Trump, donc pour acheter son silence.
Donc, il a montré le chèque?
Il a montré ce chèque. Il y avait 11, en total, il y avait 11 chèques. Et il dit, écoutez, j'ai les spécimens. Voici les 11 chèques qui m'ont été remis.
Ah, ben ça, ça fait de la bonne TV, ça.
Oui, oui. Et puis, on voyait la signature de Trump sur un des chèques. Sur d'autres chèques, c'était Donald Trump Jr., etc. Ça, il l'a montré. Il nous a aussi expliqué qu'en fait, Trump savait tout à l'intérieur de son organisation. Et là-dessus, il était assez solide. C'était quelqu'un qui vraiment voulait tout contrôler à l'intérieur de son organisation.
Oui. Ah, pourtant,
et donc,
hein.
Il dit, les trucs de Wikileaks, là, il le savait à l'avance. Il savait que ça allait sortir. Il savait.
Les attaques contre Hillary.
Contre
là.
Hillary Clinton.
Il était au courant de ça.
De tout.
Donc, même s'il nous donne souvent l'impression, Trump, d'être un peu paresseux, d'être un peu en retrait, ce qu'il nous décrit, c'est un homme d'affaires qui est plutôt même, comment dire, en hands-on. Là,
oui,
comme
oui, qui a un micro qui fait du micro-gestion sur beaucoup de choses. Et donc, il n'y a rien d'important, disait-il, qui se faisait sans que Trump le sache. On a appris, entre autres choses aussi, qu'il n'y avait pas de preuves médicales pour son exemption du service militaire au Vietnam. Et comme il est en ce moment au Vietnam, évidemment, c'est ressorti. On a appris toutes sortes de choses qu'on ne savait pas. Par exemple, que Trump avait menacé de poursuivre ses anciennes écoles parce qu'il ne voulait pas que ses notes soient révélées au grand public,
les
notes
qu'il
avait reçues, ce genre de choses.
Probablement parce qu'elles étaient excellentes.
Ben oui, c'est ce que tout le monde s'est dit là-dessus. Alors, le jeu des Républicains, ça a été d'attaquer, mais pendant presque 2-3 heures de temps, ils ont attaqué la réputation de Michael Cohen en disant, écoutez, vous dites que vous avez fait tout ça pour protéger Trump, mais vous êtes quelqu'un qui est malhonnête d'autre part. Par exemple, vous avez menti au fisc américain pendant plusieurs années. Est-ce que c'était pour protéger Trump? Non, dit Michael Cohen. Donc, effectivement, ça faisait mal paraître Michael Cohen.
Ben, on s'entend que c'est pas un gars là, dont la crédibilité est comment dire...
Elle n'est pas au-dessus de tout soupçon.
Voilà.
Non, c'est quelqu'un qui... Écoute, ça avait l'air
au-dessus de tout reproche.
Ça avait l'air d'un truand qui avait décidé de se mettre à table.
Ouais.
C'était ça l'impression que ça donnait. Il donnait aussi des exemples de pratiques qui étaient assez odieuses, qu'on connaissait, mais il dit, écoutez, oui, j'ai appelé des gens, des entrepreneurs, de petits entrepreneurs de la part de Trump pour leur dire que je ne les paierais pas. Et ça, c'est une pratique que Trump faisait couramment dans son organisation, de ne pas payer des petits fournisseurs, etc.
Bon.
Bref, il a dépeint une image de Trump très dévastatrice.
Il a réglé ses comptes avec l'homme qui l'a rendu riche et qui l'a payé pendant nombre d'années pour être son avocat.
Mais ça aussi, c'est une question qui est revenue. Pourquoi est-ce que vous vous mettez à table maintenant?
Ouais.
Pourquoi est-ce que vous dénoncez Trump alors que vous avez travaillé pour lui pendant 10 ans?
Ouais, ouais.
Et ce qui filtre à travers tout ça, c'est finalement, bah oui, mais tant que c'était au niveau de New York, etc., ça allait. Mais quand je me suis rendu compte que l'intérêt national était en jeu...
Ouais. Franchement.
Oui,
il nous prend pour une valise.
Un peu, peut-être.
Une grosse valise.
Effectivement. Donc, on en est là.
Okay.
Ça continue à... Ça continue à se dérouler, cette
parfait.
Et c'est très passionnant. Écoute, j'ai failli arriver en retard ici.
Ben oui, ben oui, t'étais
arrivé. Par ça.
T'avais de la broue dans le toupette, t'as pas rentré dans le studio. OK, parlant de Donald Trump, il est présentement avec Kim Jong-un.
Oui.
Le grand leader nord-coréen.
Son grand ami.
Oui, bien
son
sûr.
Grand ami. C'est toujours il est toujours le grand ami des grands dictateurs.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, ils se sont serrés la main. L'atmosphère était un peu bizarre entre les deux. Mais ça va... Écoute, même s'ils ont mangé ensemble et tout, tu sais, ils avaient salade, crevettes, avocat, entrecôte avec de bœuf avec kimchi. Kimchi, c'est ce chou coréen qui est extrêmement fort au piment. Et puis, il y avait un gâteau au chocolat.
Ah,
mais
est-ce que ça a facilité les rapprochements?
Et si je te dis ça, c'est parce qu'on n'en sait pas beaucoup plus. Il a dit oui, peut-être qu'il va y avoir, je vais déclarer la paix à la Corée du Nord. Mais Trump est furieux. Il est furieux parce que figure-toi que les journalistes se sont mis occidentaux, se sont mis à lui poser des questions sur toi. Sur quoi? Sur Cohen.
Ben évidemment.
Évidemment. Il n'a pas répondu aux questions.
Oh, il ne voulait pas répondre.
Et il veut même plus que les journalistes assistent désormais aux conférences de presse, les journalistes américains. Ils essaient de retirer leur accréditation.
Alors, ils ont fait le voyage jusqu'au Vietnam. Non, mais... Jusqu'au Vietnam. Oui. Puis là, ils les menacent dans le fond de dire, bon, oui. Vous allez devoir aller vous asseoir dans la c'est cafétéria ça. Du
c'est
centre.
Correct.
Là, puis,
c'est correct pour les photos, c'est correct pour les films, tout ça. Ouais. Mais il ne veut plus qu'ils posent de questions. Il ne veut pas répondre aux questions sur Cohen. Mais écoute, je comprends un peu aussi. Il y a un événement historique qui est là et il se retrouve pris avec quelque chose.
Mais ça s'appelle la liberté de la presse.
Totalement. Et les démocrates se sont arrangés pour que ça tombe comme par hasard cette journée-là.
Ben oui, voilà. Très bien. Sujet très sérieux, celui-là. La crise entre l'Inde et le Pakistan.
Oh, c'est un sujet sérieux.
Oui, non, je sais, mais bon. Celui-là, moi, j'ai toujours la crainte d'une escalade parce que l'Inde et le Pakistan ont tous les deux l'arme nucléaire. Oui. J'aime pas ça.
Alors, on souffle le chaud et le froid là-dessus. Le chaud, si tu veux, c'est qu'il y a deux avions indiens qui auraient été abattus, selon les sources pakistanaises. Et selon les sources indiennes, il y a un avion pakistanais qui aurait été abattu.
Lui aussi abattu.
On parle de MiG-21. Heureusement, les deux, et là c'est la meilleure nouvelle, c'est peut-être le froid là-dessus, les deux gouvernements pakistanais et indiens disent qu'ils veulent éviter l'escalade et même que le gouvernement pakistanais a invité le gouvernement indien à négocier. Cependant, la tension est très très vive dans le nord de l'Inde. Il y a 9 aéroports qui ont été fermés aux vols civils. Il y a des tirs de but très, très fréquents en ce moment au Cachemire, ce qui ont eu lieu, en tout cas, la nuit dernière. Il y en a souvent, mais vraiment très fréquents. Et il y a des avions de chasse qui survolent la région. Les États-Unis se sont joints à la Russie et à l'Europe et ils appellent aussi à un dialogue entre les deux pays.
Oui, non, ça, c'est sûr qu'il faut... Mais tu sais, c'est pas la première fois, hein?
Non.
Qu'ils ont des affrontements comme ceux-là.
Non,
mais en général, ils le gèrent bien parce que je pense que là, de part et d'autre, ils réalisent qu'il ne faut pas que.
La grande chance, c'est que les élections ont eu lieu cet été au Pakistan, les élections générales. Donc, il n'y a personne, il n'y a aucun politicien qui a un grand crédit politique à gagner là-dessus au Pakistan.
Mais les Indiens.
En Inde, oui voilà, comme je t'ai dit, il y a des élections en avril-mai qui arrivent. Et c'est pour ça, je pense, qu'en Inde, la tension monte autant. Mais heureusement, ce n'est pas des deux côtés qu'il y a une tension électorale. Qui fait en sorte qu'on pourrait avoir une vraie crise.
Très bien. Et en Algérie, il y a des grandes manifestations contre Bouteflika qui se représente à la présidente. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont d'origine algérienne qui s'intéressent à ces élections-là en 20 secondes.
C'est des étudiants qui sont descendus dans toutes les villes du pays et les autorités sont sur les dents. Le chef de l'armée algérienne dit aux gens, écoutez, là, ça peut déraper tout ça, mais les gens sont furieux et ça passe à travers les réseaux sociaux. Il y a vraiment beaucoup de gens qui manifestent.
J'ai vu des manifestations de femmes aussi.
Beaucoup d'étudiants qui manifestent. Et on n'avait pas vu ça depuis des années en Algérie.
Loïc Tassé, je te remercie.
C'est un plaisir.
Demain, on se reparle. Tout de suite après la pause, on va parler prostitution juvénile. Restez avec nous.